C'était Eliane.
Mais Eliane était très solide. Solide. Il y a eu des leaders par moment, des femmes que, par exemple, Anna, elle était à la passée.
Oui, d'accord.
C'était le centre autonome. Et Eliane, elle a...
Oui, Eliane, oui, Eliane, c'est...
Oui, je me souviens.
Est-ce que quelqu'un veut demander une boisson à Ariane? Il y a des verres.
J'attends en fait l'influence de mai 68 sur notre trajectoire. Et aussi comment on a vécu mai 68. Alors premièrement, j'aimerais dire une chose. Moi-même, je suis en fait un enfant atypique, puisque je suis un enfant de naturel. Ma mère était aussi enfant naturel, donc elle était encore plus atypique, et ma mère a eu trois enfants de trois pères différents, dont mariés. Donc, elle, c'était pas parce qu'elle était déjà libérée, etc., c'était simplement parce qu'elle était parfaitement ignorante de comment se faisaient les enfants. Donc c'était presque ça, en fait, au début. Bon, donc, origine atypique, avec tout ce que ça signifie aussi que là, on n'a pas le sens de la famille qu'ont les autres, on n'a donc non plus pas l'aversion par rapport à la famille, on n'a pas... La famille, c'est l'État. En l'occurrence, et pour moi, la famille, ça a été effectivement l'assistance publique, des choses comme ça. Donc ça change, peut-être pour les psychologues, ça change le rapport qu'il peut y avoir à la, aux événements ou à la vie politique. Disons que ça a eu une influence sur ma carrière, parce que étant enfant, j'étais considéré comme à l'école comme un... comme un enfant surdoué. J'ai même subi des tests, des trucs comme ça, puis à l'époque je voulais être comme tout le monde, exactement. Donc surtout pas qu'on dise que j'ai eu cette maladie. En fait, je considérais ça plutôt comme une maladie que de ne pas avoir besoin d'étudier pour savoir des certaines choses, alors que les autres bûchaient comme des fous, en fait, pour savoir un certain nombre de trucs. C'est une influence parce que quand on m'a demandé, et puis on m'a dit, les professeurs, les instituteurs, effectivement, disaient cet enfant doit aller à faire la maturité, etc., faire des études, et que le tuteur disait non, ça va pas, il n'a pas l'argent, donc je n'y suis pas allé, et le tuteur a décidé que le Tirefort, comme il sait bien écrire, bien lire, il sera typographe. C'est de là que je suis, enfin, c'est à partir de ça en fait, que je suis devenu typographe. Donc je suis aussi atypique comme ouvrier, comme vous verrez que je suis devenu aussi atypique comme intellectuel plus tard. C'est probablement en fait la trajectoire. Mai 68 maintenant, Eric a signalé, je suis rentré au Parti du Travail à partir du texte que j'ai suscité avec Carlen et Talman, qui a ensuite été signé par Egan Perrin et Wolf, dans la section cité centre-ville donc, du Parti du Travail. Je suis rentré au travail à partir du fait qu'on publie ce texte-là. Moi, avant, ma seule relation aux politiques était une relation internationaliste, c'est-à-dire je me suis intéressé au soutien, et puis j'ai soutenu les mouvements en fait, de libération de l'Algérie, à partir de Lausanne, et je me suis intéressé ensuite très fortement évidemment aux affaires anti-impérialistes au Vietnam, les éléments de ce genre-là. Mais 68 pour moi a été un élément important. J'étais dans une usine, c'était une imprimerie à taf. Quand on a 20-25 ans, on se trouve dans une usine, évidemment, qu'on se disait à l'époque, mais je vais rester là encore 40-45 ans, devant mon travail qui ne changera jamais. J'aurai toujours cette même hiérarchie, ces chefs, etc. dans ce sens, il y avait une sorte de stabilité, on pouvait construire notre vie à partir de là, et puis l'avenir, c'était effectivement gagner un peu plus, un peu mieux sa vie pour pouvoir construire cette vie. Alors mai 68, ça a été un élément important de déstabilisation de cette image. Ça a indiscutablement, dans le monde ouvrier, déstabilisé cette image. Jamais, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on le pense, dans le sens d'une aversion par rapport à une division négative entre ouvriers et étudiants, où tout le monde reconnaissait que les étudiants étaient à la tête et à l'origine de ce mouvement de mai 68, mais il n'y a jamais eu, en tout cas dans l'entreprise où j'étais, cette sorte d'aversion qu'on décrivait bien volontiers dans la gauche et surtout dans le Parti du Travail par rapport à ce mouvement d'étudiants. Je me rappelle que chaque matin qu'il y avait la grève qui s'étendait, parce qu'il y a eu, en mai 68 rampant avant en France, hein, avec pas mal une démultiplication du nombre de grèves, etc., ça ne s'est pas fait dans le vide. Hein. Et puis chaque fois que la grève s'étendait à une grève, véritable grève générale en France, il y avait, je me rappelle, des collègues qui savaient que j'étais plus ou moins politisé, etc., qui venaient me demander est-ce que ça va aller loin, est-ce que c'est maintenant la révolution, etc., sans aucune aversion. Hein. C'était pour dire c'est arrivé maintenant, on va y aller, ou des choses comme ça. Alors que tous les appareils officiels, y compris d'ailleurs les membres du Parti du Travail qui étaient dedans, tu vois, disaient que c'était une affaire d'étudiants. Tu vois, les ouvriers venaient vers moi en disant ça va aller, puis les membres de l'appareil venaient vers moi en disant c'est une affaire d'étudiants, ça ne nous concerne pas. Et les appareils, donc les dirigeants syndicaux venaient vers nous en nous disant en fait ça ne nous concerne pas, c'est des étudiants, etc. Donc j'ai vécu mai 68 à partir de cette image-là. J'étais déjà dans le Parti du Travail, vous le savez, il a dit par rapport à ce texte en fait, sur créer 2-3 en fait, 1000 Vietnam. J'ai déjà eu l'expérience entre guillemets démocratique dans le Parti du Travail, au sens où Eric a déjà signalé qu'il y avait eu décision d'un blâme à notre égard, puis dans la section cité. Il y avait à l'époque Jean-Vincent, Trub, je ne sais pas si vous connaissez, Asmig, la femme de Trub, etc. On était une quinzaine, 12 à 15 là, on était 5 blâmés. Hein. Et dans le vote, il s'est trouvé qu'il y a eu, en fait, ils ont eu un vote de majorité parmi les non-blâmés, hein, et puis il y en avait 4 qui votaient, ou 3 ou 4 qui votaient contre le blâme, qui avaient voté contre le blâme. Puis moi, je lève la main quand ils votent, mais toi t'es blâmé, t'as pas le droit de vote. On était 5. Donc, entre les blâmés et puis les quatre qui votaient avec nous, on avait la majorité. J'ai vécu très, très immédiatement en fait, ce genre d'élément qui m'a... ça m'a ouvert les yeux sur les grandes déclarations sur la démocratie ou les choses de ce genre-là. J'ai suivi, donc c'est vrai qu'on a été, Eric et moi, directement en fait dans la... on était dans la charrette des 40 ou 50 qui devaient être exclus du Parti du Travail, on le savait. Pour lui, c'était évidemment beaucoup plus difficile parce que c'était sa famille. Moi, c'était loin d'être ma famille. Et ma famille, disons, c'était que parmi le monde ouvrier, on croyait beaucoup en l'expérience soviétique ou en les expériences en fait des pays de l'Est, on ne connaissait pas. Et on ne voulait surtout pas admettre que c'était faux et qu'il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Donc on a eu beaucoup de peine, dans le monde ouvrier, ils ont eu beaucoup de peine à se désolidariser de l'Union soviétique, ce qui fait que le Parti du Travail utilisait, les partis communistes utilisaient beaucoup cette filiation au père soviétique, au père, pas Staline, hein, mais au père, à l'époque c'était déjà la déstalinisation avait eu lieu depuis longtemps, donc c'était plus Staline, c'était simplement l'État soviétique, l'exemple soviétique, le modèle soviétique, les trucs comme ça. Donc je me rappelle qu'à l'époque j'avais été jusqu'à écrire un article en fait disant qu'il y avait vraiment des trucs très contradictoires dans l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, etc. C'était guidé par cette sorte, on a eu de la peine à faire son deuil de cette période soviétique, etc. Mais par contre, quand le deuil a été fait, ça a été définitif. En fait, dans le monde ouvrier, c'est vrai que dès les années 72-75, c'était fini. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu la chute d'ailleurs du Parti du Travail et puis la montée en fait, de la social-démocratie. Après l'expérience du CLP, on a été exclu tout simplement parce qu'on n'était pas d'accord avec la ligne. En fait, il y avait un mélange de trucs individualistes forcenés avec un chef ou deux, trois chefs à la tête de ce machin-là qui avait d'ailleurs le droit de cuissage en fait. Mais oui, c'était en fait pratiquement ça. Et puis là, moi-même, je ne pouvais pas l'accepter. Je n'étais pas un tri-type en fait qui respectait beaucoup la famille et les relations des relations hommes-femmes, etc. Tu vois, enfin, au sens. Mais là, ça allait. Quand tu vois un type ou deux types qui s'arrogent le droit effectivement du cuissage sur l'ensemble des jeunes, il y avait eu un fort recrutement chez les collèges, dans les trucs comme ça. Il y avait donc des trucs à la limite de la légalité, objectivement, en fait, de ce point de vue-là. Alors là, moi-même, j'étais dans ces organisations, une sorte de caution ouvrière. J'étais l'ouvrier du coin, hein, puis j'étais donc un ouvrier atypique, et puis je suis devenu, à partir du moment où on m'a dirigé, et j'ai été poussé par les travailleurs qui disaient maintenant tu dois devenir, prendre ce poste dans le syndicat, prendre cet autre, etc. J'étais vraiment poussé, ils voulaient que je sois là. Ces postes en fait sont venus, je suis devenu en fait un intellectuel atypique. Ah. Aussi atypique au sens où je n'ai pas un instant j'ai cru en l'autonomie de l'intellectuel à cette vie autonome de l'intellectuel par rapport au reste du monde. J'ai toujours pensé que l'intellectuel devait servir en quelque sorte des causes et servir effectivement de. Donc dans ce sens, je suis plutôt en fait de la tendance des gens qui pensent que ils écrivent, ils créent ou si on crée, c'est pour des causes, et puis pas pour créer, simplement pour créer. Je suis aussi de la tendance de ceux qui pensent que ceux qui créent, ils créent pour des causes sans le savoir. C'est une différence que de penser qu'ils créent pour rien du tout. Alors, voilà. Là, on s'est fait vider du milieu des groupuscules. Eric par révisionnisme, moi par anarcho-syndicalisme. Ben oui, il était traité de révisionniste de droite. Et puis moi, j'étais traité d'anarcho-syndicalisme parce que je réussissais à l'époque. Était extrêmement rare à faire des grèves, à organiser des grèves. À partir de ma position, j'ai réussi à organiser certaines grèves dans les imprimeries en général, et puis à avoir des relations patron-travailleurs qui n'étaient pas en fait des relations de conciliation ou de fait du travail telles qu'elles existaient dans ce pays. Dès très tôt, et c'est pour ça que je pense que il y a la question de l'intellectuel atypique. On a remarqué ce changement de période. Et puis maintenant, de plus en plus, on date ce changement de période entre la société industrielle et la société financière, on la date environ à 1068, en tenant compte que 1068, c'est pas que ce qui s'est passé en Sorbonne, c'est ce qui s'est passé aussi durant les deux, trois années suivantes en Italie, ce qui était, s'était passé avant aussi dans différents pays. Tu as parlé de l'Allemagne avec Duchquet, etc. Enfin, il y a eu, donc 1068, ça a été un point, un sommet de cette période-là, très visible, très spectaculaire, mais ça a été un changement de période, un changement en fait de période historique. Et puis ça a été le début de ce passage. Pour nous, on a compris relativement vite que c'était le début de ce passage de la société industrielle avec une sorte de stabilité dans les relations entre le travail, les patrons et les travailleurs, et puis la société financière où le capital financier s'est bien dominé, y compris les capitalistes industriels, avec un durcissement de la concurrence à l'intérieur des capitalistes qui avait une répercussion directe sur les conditions en fait, de travail et la possibilité de chaque patron individuel d'allouer un certain nombre de trucs. On a vu relativement en fait, rapidement ce changement d'orientation, mais il faut dire on était les seuls parce que tous les groupuscules fonctionnaient sur leurs anciens trucs. Puis quand on était confronté à la social-démocratie, on parlait de ça, on était traité de fondamentalistes. Donc on a été assez longtemps assez seuls à essayer de développer dans cette direction-là. Puis l'avenir, j'en suis persuadé et j'en suis maintenant de plus en plus sûr, il passe par un autre projet de société. C'est clair que le projet de société actuel a échoué, et puis il a échoué au sens il est en train de détruire la planète, il est en train de détruire en fait l'ensemble des relations, et puis personnellement je n'y crois pas, puis je crois que la seule chose, et c'est peut-être un acquis, ça se passe en fait beaucoup dans la tête des gens, surtout en fait dans le monde des travailleurs, et c'est la seule manière de changer quelque chose, ce sera effectivement quand ce quelque chose sera déjà acquis dans la tête des travailleurs. Autrement, en fait, ce sera une manipulation. Un long robe noir qui courait après ma mère en lui jetant des pierres. Et puis finalement, de la famille, sur les sept enfants, il y avait cinq demi-frères, donc du côté du mari de l'époque, pas du mari, mais du compagnon de l'époque, puis on était trois de mon côté, plus personne n'osait aller faire les courses, à part moi qui étais le plus petit. Et j'avais 3-4 ans, je devais aller porter, chercher à la laiterie, enfin, chercher le bidon de lait, puis les femmes de pommes de terre, je devais faire plusieurs voyages pour le faire. Donc ça peut intéresser les femmes pour le niveau là, c'était fou. Moi j'ai vu effectivement. Non mais sur la manière dont elles étaient traitées en ce moment-là, quand elles l'ont. Un homme n'aurait jamais été traité comme ça parce qu'il était père naturel.
On sait jamais si
Mais disons que mon rapport à la religion en ce moment-là, je respecte beaucoup ceux qui ont des opinions des religions et tout, mais mon rapport à la religion m'a toujours dit qu'il était irrationnel, parce que je suis effectivement... J'ai ça, la religion c'est ça.
Mais ta mère c'était son village d'origine, elle était complètement implantée là.
Non. Elle c'était une fille de Lausanne qui avait marié quelqu'un, enfin marié, qui s'était mis en ménage avec quelqu'un. Elle croyait quand elle a été en ménage avec nous. Avec mes deux sœurs, on a trois pères différents. Donc elle s'était mise avec le père de ma petite sœur, on était allé là-bas. Et puis ma petite sœur étant de pères différents, donc du mien et celui de ma sœur. Elle était en plus de ça l'étrangère du village.
Alors moi j'aime bien, j'ai remarqué, puis j'assume, raconter 68, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. J'aime bien, c'est par ces temps de commémoration, j'ai commencé à le raconter dans deux ou trois occasions, et puis je me dis, ça peut être utile. ça peut être utile pour... pas parce que je pense que mon témoignage et mon histoire est particulièrement intéressante ou voilà, elle n'est pas exceptionnelle, mais parce que je pense que si on met ensemble témoignage sur témoignage, on peut créer une mémoire qui est collective, quelque chose de collectif. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça peut passer par des archives, ça peut passer par un savoir qu'on se transmet. Il y a des choses que moi j'ai appris et que je peux retransmettre, et qu'il y a quelque chose de peut-être de plus intéressant qui va sortir que simplement ces discours journalistiques sur 68 dont on en a tous marre. Et puis je pense que ce soir il n'y a personne qui a fait du, comment on appelle ça, du vieux, comment on appelle ça quand on dit qu'on fait des vieux, discours de vieux combattants. Il n'y a personne ce soir qui a fait ça. Et quand moi je dis que oui, je suis d'accord de raconter, on me dit ouais, mais c'est encore ces histoires de vieux combattants. Bon, alors ça c'était ma petite introduction. Mais une autre chose, c'est par rapport au témoignage oral. Donc ça fait partie de comment j'appelle la mémoire orale. Donc ça peut faire partie c'est des traces, c'est une archive qu'on peut constituer et qui peut être utilisée par les historiens pour écrire l'histoire de 68. Et on sait très bien que l'histoire de 68, vu qu'il y a encore énormément de témoins, elle n'a qu'à gagner. Une belle histoire qui pourrait commencer à s'écrire maintenant, parce qu'il y a on a suffisamment de recul par rapport à l'époque. Elle a tout à gagner s'il y a aussi le témoignage oral. Voilà. Moi, je pense que les deux choses ne sont pas contradictoires et que les deux choses peuvent aller ensemble. Mais c'est vrai aussi que c'est peut-être le moment maintenant de donner la possibilité à des historiens de leur fournir des sources, surtout des sources écrites, nos archives, et de permettre que cet espoir puisse commencer à être écrit, à s'écrire. Moi, je pense à Genève, à la Suisse, je ne sais pas très bien ce qui se passe ailleurs, mais par rapport à ici, je pense qu'il n'y a pas encore grand-chose, mais il y a quelque chose qui commence à se mettre en branle. Bon, je ne peux pas raconter tout ça, mais moi, je fais partie, dans mon travail professionnel, je fais partie de... Je m'occupe d'archives du mouvement ouvrier. Et puis, avec d'autres, on a fondé maintenant une association qui s'appelle les Archives Contestataires. C'est une association pour la récolte, la valorisation, la conservation des archives de 68 et de la période suivante, c'est-à-dire de la deuxième moitié des mouvements sociaux de la deuxième moitié du XXe siècle, ou en tout cas les années 70. Et donc, je fais un appel à tous, vous ici, bon, j'ai oublié de prendre les prospectus, mais il y a peut-être certains de vous qui l'ont déjà reçu, parce qu'on a envoyé ce prospectus, il y a déjà une information qui circule, et je fais un appel, si vous avez des documents, faites-nous savoir, même si vous ne voulez pas nous les donner, mais faites-nous savoir ce que vous avez. Ça peut être intéressant après dans un site internet de dire il y a des documents qui concernent ça, simplement ça existe. Ou bien vous pouvez nous dire on vous les donnera, je vous les donnerai quand je serai trop vieux, etc. C'est pas nécessaire de nous les donner, mais de faire aussi là circuler l'information. Bon, alors par rapport à mon histoire et 68, moi, ce que j'aime dire et ce que j'aime mettre en avant, même si je pense que c'est l'idée que des événements de 68, c'est pas... donc moi, je pense surtout à l'explosion 68, le mouvement étudiant. Hein. C'est pas qu'un mouvement qui a duré le temps qui a duré et puis ça s'est retombé. Moi, je pense qu'une chose que je mets en avant... Et c'est clair que si je le dis à vous, vous êtes tous plus ou moins des militants, des gens qui ont vécu 68 et ont milité, ont fait plein de choses après, ça semble évident. Mais de le dire et d'essayer de transmettre cette idée que de 68 sont sortis des expériences de vie, c'est-à-dire des engagements de plein de personnes qui se sont engagées sur des décennies, ou même à vie, parce qu'il y en a peut-être certains de nous qui s'arrêteront jamais de s'engager, d'être actifs, d'essayer de changer la société. Donc, moi, c'est cette idée-là que je fais ressortir, c'est que sont sortis des gens qui se sont engagés par la suite. Et que ça a marqué, mais ça n'a pas seulement marqué les gens, comme ça a pu me marquer moi, mais ça a produit une nouvelle génération de militants. Et des militants qui, en grande partie, c'est un nouveau type de militant qui n'est pas le même, qui vient du Parti du Travail. Parce que je pense aux jeunes qui avaient 20 ans en 68, il y en a certains qui sont peut-être entrés à 20 ans en 68, mais il y en a très peu. C'est-à-dire que c'était un autre type de militant. Alors, et puis ce nouveau type de militant qui est sorti de personnes engagées, de personnes qui... Je dis militant, c'est pas un joli mot, c'est pas le mot que je préfère, mais bon, j'en trouve pas un autre. Et c'était aussi un militant qui est aussi né une autre manière de faire la politique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je faisais moi en 68? Alors, en 67, je suis arrivée à Genève. En automne 67, je suis arrivée à Genève pour étudier la sociologie. Je venais du Tessin. 68 a commencé tout de suite. J'ai fréquenté un peu l'ASU sporadiquement. J'ai connu c'est-à-dire le syndicalisme universitaire. Mais très vite, il y a eu la fondation du Cadet. Et très vite, il y a eu un mouvement d'agitation, un mouvement à l'université qui a fait qu'on a créé le CADET, c'est-à-dire le Comité d'action de démocratisation des études, qui était effectivement un mouvement d'assemblée sur la question des bourses d'études, bon, j'abrège, mais c'était une nouvelle forme de lutte, une nouvelle structure mais dans laquelle on pouvait s'exprimer librement. Il y avait un refus de la délégation, c'était un mouvement d'assemblée, un comité de base. Déjà ça, moi quand je suis arrivée, je suis arrivée à l'ASU, c'était sporadique, j'étais quelques réunions, mais c'est surtout le cadet dans lequel je suis entrée, comme beaucoup d'autres étudiants, on est entré vraiment plein d'enthousiasme, ça nous a vraiment, on s'est laissé embarquer dans cette chose, il y a tout de suite eu un esprit contestataire, une politisation très très rapide pour moi, que j'avais pas tellement en venant du Tessin, mais il y avait quelques symptômes déjà dans ce que j'avais vécu au Tessin, mais je ne peux pas vous les raconter parce que sinon demain matin je suis encore là, mais disons j'avais déjà lutté pour pouvoir porter les pantalons au collège, il y a plusieurs choses, mais oui, on avait déjà fait une ou deux manifs pour Vietnam, mais disons, en tout cas j'avais aucune politisation réelle. Et ce cadet, effectivement, ce système d'assemblée, c'était quelque chose très vite, je me suis sentie faire partie d'un moment historique. Il y avait les échos de Paris, etc. Donc, il y avait une espèce je ne sais pas comment l'appeler, mais on était agité, quoi. D'effervescence, voilà. Donc, pour moi, c'était une période heureuse, donc ça je parle de 68-69 à l'université, tout ce qui concernait le mouvement étudiant. Il y avait un plaisir à semer la pagaille, à pratiquer l'irrévérence par rapport aux autorités, à l'insoumission. Il y avait la dérision, le dies academicus, l'occupation du rectorat, certaines assemblées extraordinaires qui ne finissaient plus. Il y avait une exaltation. Et là, j'ai vraiment eu du plaisir. Mais en même temps, moi, j'étais assez malheureuse d'un autre point de vue, c'est-à-dire que j'étais très intimidée par rapport à la dynamique militante, c'est-à-dire que j'étais face aux leaders, j'ai fait partie très vite du cercle de certains leaders du mouvement étudiant qui était aussi une partie des gens, c'était en partie des militants de l'ASU, et certains ils venaient du Parti du Travail, etc. C'était des gens expérimentés politiquement, c'est-à-dire qu'ils avaient un langage, ils savaient comment on gère les assemblées, comment on fait l'ordre du jour, ils savaient comment on fait comment on appelle ça, l'analyse de la situation, etc. Moi, je naviguais complètement, je tombais des nues, etc. Donc, ça m'a c'est vrai que j'étais assez malheureuse, j'avais une espèce de complexe d'infériorité. Dès que je sortais de l'assemblée, bien sûr, je commençais à parler dans les couloirs, etc. Un jour, des copines, j'avais pas beaucoup de copines, je venais d'arriver, des filles qu'après j'ai retrouvées dans le MLF, etc., elles m'ont dit, mais Alda, pourquoi tu dis jamais rien dans les assemblées, etc. Mais non, t'as dit des trucs intéressants, t'aurais pu dire. Et puis moi, mais oui, mais les autres, ils le disent tellement mieux que moi. Oui. Terrible, terrible. Bon, alors, voilà, c'est un peu mitigé mon bilan de 68, mais disons, si j'y pense bien, je dois dire ça, mais au fond de moi-même, c'est exaltant et ça m'a beaucoup plu, mais je dois être quand même, honnête avec moi-même, il y a eu quand même quelques difficultés. Ensuite, moi aussi, j'ai suivi, comme je dis, je me suis politisée très très vite, et j'ai suivi, donc j'ai participé à toute la suite, et je suis allée aussi sur la voie des groupuscules, donc moi aussi, si vous voulez, je vous liste. J'ai commencé avec les Tessinois, parce qu'effectivement, j'étais quand même Tessinoise, donc le MGP, donc le Movimento Giovanile Progressista, qui ensuite est devenu le De Classe, donc ça, c'était tout de suite tourné vers l'Italie, tourné vers ce qui était avant l'autonomie italienne, une tendance plutôt ouvriériste, mais ouvriériste modernisée par des analyses plus palpitantes qui, moi, ils m'ont terriblement poter opéra, tout ça, moi, ça m'a nourri, ça m'a exalté encore pendant des décennies. Mais en même temps, moi, j'étais aussi, donc j'avais le pied dans plusieurs groupes, j'étais aussi au MSR, puis après au CLP. Alors là, je dois dire que j'étais aussi manipulée, je me laissais. Disons, j'ai su ce soir que j'ai participé à l'exclusion de plusieurs d'entre vous. J'étais la copine de Sergio, qui était un des leaders les plus furibonds quoi là-dedans. En somme, il s'agitait dans tous les sens. Et moi, j'étais derrière.
Bon. Calme,
ça, ouais, mais je comprenais pas grand chose, je dois dire. J'étais très timide. Très très timide.
J'ai déjà tout écrit, donc je vais pouvoir passer ça à Alda tout à l'heure pour les archives. Alors, chers amis et camarades, je vais lire, alors ça va, j'espère que ça ne va pas vous endormir. Ah, désolé, je fais comme je veux, parce qu'ici on est libre de faire comme on veut. Donc, alors je crains fort de décevoir vos attentes, parce que si mai 68, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, pour beaucoup de ceux qui m'ont précédé et celles qui m'ont précédé ce soir, c'était une expérience inaugurale, voire une révélation. Ce n'était pas le cas tout à fait pour Eric et pour Eric. La période a pour ma part et pour ma trajectoire un parfum de point d'orgue à une pratique militante qui était largement antérieure. Et elle est partie des années 60 et puis elle a atteint plutôt rapidement après 68, elle tenait plutôt du champ du cygne pour moi. Merci tout de même Marielle qui vient de me connaître à la faveur d'une résurgence, pour ne pas dire une résurrection. Merci de m'avoir sollicité malgré mon peu de goût pour la nostalgitude et un certain scepticisme quant à la portée que peut avoir l'improvisation que je vous livre ici, d'autant que ma mémoire des faits et des événements, et particulièrement de leur chronologie, a tout de la passoire. Heureusement, c'est pas tout à fait la même chose pour les sentiments, pour les convictions, et là je crois avoir une certaine précision de nos positionnements politiques, de nos argumentations. De ce point de vue, mon témoignage, s'il a un intérêt quelconque, c'est peut-être de nuancer la vision qu'un récent numéro de Solidarité, fort bienvenu d'ailleurs sur la période actuelle, mais que j'ai trouvé quelque peu partiale. J'espère que les informations que je vais vous donner seront de nature à nuancer ce tableau. En 68, moi j'étais iranien helvétisé dès 61 et j'allais déjà vers mes 27 ans. Et j'étais dans la seconde année de prof au collège de Calvin, de prof de maths, et j'avais une bonne part de ma formation politique en réalité derrière moi. C'est de 62 à 64, dans les trois dernières années de mes études de physique au Poly à Zurich, que datait ce militantisme. Je suis obligé de passer comme chien sur braise là rapidement dessus, mais j'avais un retard à combler en matière de sexualité, une dévorante passion ciné jazzophile qui me coûta pour finir, malgré de brillants débuts, mon diplôme final de physicien. Alors j'étais contraint ensuite de pérenniser à Calvin mes suppléances intermittentes. Je mis fin au petit boulot de livreur occasionnel. Et en 67, je passais à une vie de couple avec enfant. Et notez le contraste avec l'éclosion dont on vient d'entendre parler des communes. Et je signais bientôt le terme des bruyantes discussions nocturnes, du nomadisme des copains en transhumance. Et bref, en gros, de la bohème activiste de l'étudiant empêché de devenir perpétuel, car il n'avait pas d'arrière. Ce changement de mode de vie, d'ailleurs, consomma la rupture avec Antoine Guinan, dont certains ont entendu parler, et qui était un inséparable ami depuis les bancs du collège. On y reviendra parce que c'est pratiquement la seule personne que je cite, mais vous verrez pourquoi. Alors oublions ce passé, pourtant tout à fait déterminant pour moi, et venons-en à 68, où, n'étant ni anarchiste ni maoïste, mais anti-stalinien, je fus stupidement, aux yeux d'une gauche ignare, qui avait à Genève perdu toute trace des ex, étiqueté trotskiste. Bien. Parmi la foison de ce qui a suivi, alors j'ai pas le temps d'entrer, mais si vous me posez des questions, j'en aurai. Hein. Parmi la foison de ce qui a suivi, la manifestation d'opposition aux journées de l'armée du 14 mai, dont on a parlé, qui appartient à l'histoire, mes propres titres de gloire, alors je vais m'efforcer de les énumérer, tiennent pour l'essentiel, puisqu'on n'a pas le temps pour les détails, au point suivant. D'une part, la propagation des piètres résultats initiaux du programme chavanien de la démocratisation des études, glané au service de la recherche sociologique, selon lesquels seule une poignée de boursiers échapperait aux critères draconiens de revenus. Et ce fut, à mon avis, chose qu'on ne dit pas souvent, un véritable détonateur de l'alliance inattendue entre les étudiants, les apprentis et, espérions-nous, les employés et ouvriers. La social-démocratie n'a couché que de boursiers qui se comptaient sur les doigts de la main. Bien. L'incitation à la salle 59 Unibastion, qui a été mentionnée, je crois, par toi, sous les acclamations avec André Petita, qui m'a livré quelques détails, parce qu'il n'a pas pu venir ce soir, contre les tenants de l'ordre syndical étudiant du Cadet et des manœuvriers stratèges étudiants du PDT, à l'ouverture, je les incitais à l'ouverture des portes de l'université aux manifestants pourchassés de la Place Neuve le 17 mai, et ils ont déferlé ensuite à l'OLA, et ça a été vraiment un des gros démarrages. La prolongation ensuite de la manifestation ALDA, tu l'as mentionné, de la manifestation du mouvement du 17 mai contre la guerre du Vietnam devant l'ambassade US, on l'a prolongée en protestation du même coup contre l'invasion de la Tchécoslovaquie le 21 août, Ça, j'ai vu en relisant Udry, etc., j'ai vu, tiens, c'était le 21 août, hein, moi, je me souviens de rien. Hein. Mais, enfin, je pense que c'était la première démonstration d'autonomie du mouvement par rapport aux admirateurs du socialisme réellement existant. Ensuite, j'ai participé, dans le cadre du groupe des grands magasins, à la lutte des employés contre l'ouverture du dimanche, où se scella l'amitié avec Léo Kahneman, ici présent. Je ne sais pas si je me trompe dans la chronologie, c'est possible. C'est à peu près ça. Bon. Alors, voilà.
Alors, c'est la lutte contre la réouverture.
L'ouverture des magasins le dimanche.
Ah, mais oui, les Ricardis aussi.
Bah, sans doute, mais bon. Et après, dernier ou presque dernier titre de gloire, la fondation, si mes souvenirs sont bons, en mon appartement, fin 68. Du MSR, Mouvement Socialiste Révolutionnaire, sur une base que j'ai résumée en deux mots, résolument hostile à tous les appareils d'encadrement que nous estimions faire écran à l'alliance nécessaire entre le monde intellectuel, la jeunesse et le monde ouvrier. Bien. Et puis, un souvenir que je ne peux pas ne pas mentionner, c'est le roast beef et le gratin dauphinois qui a été partagé en septembre 69 avec Herbert Marcuse et son épouse, rescapés des 22e rencontres internationales où, avant de jouer sur la table avec notre fils, il avait donné la réplique à Raymond Aron. Voilà. Bon. Alors, le MSR...
Je peux oui. dire un mot. Moi, j'étais fascinée par cette Madame Marcuse qui mouchait son mari en lui disant « Mais tu déconnes !»
Voilà, le MLF à ses origines.
Alors, il y a Marcuse qui est venu chez toi,
c'est oui, bien sûr, oui, moi j'ai un certain bagout à la sortie des trucs internationaux, j'ai été voir, j'ai dit « Herbert, viens, on est un groupe de copains, il faut que tu viennes ». Voilà, bon, il est venu. Non, il n'y avait pas Aron chez moi, Aron, rencontres internationales, aux mêmes rencontres internationales, Aron dégueulait sur mai 68 et Herbert les défendait, voilà.
D'accord, mais comme tu l'as dit, on avait l'impression
non,
que...
Ah bon, non.
Chez vous. Et puis c'était en 69
septembre 69. Oh, j'ai vérifié quelques dates, hein, soit. Alors le MSR, c'est la seule formation avec la FSZ, que vous, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Fortschrittliche Studentenschaft Zürich, parce que j'ai fait mes études à Zurich, et peut-être le mouvement contre l'armement atomique, je ne suis pas sûr, c'est la seule formation où je ne fus jamais inscrit comme membre, c'est-à-dire uniquement les deux associations que j'ai fondées. Bon, ça regroupait... S'il y a une exception, c'est maintenant Solidarité. Bon. Ça. Bon, le MSR a regroupé au mieux de sa forme une petite quinzaine de troublions et trublionnes attachés à faire jaillir du syndicalisme étudiant l'étincelle de la révolution sociale. Sur quoi il a buté ? Ben, certainement devant un silence dans le prolétariat auquel, bon, pour plaisanter, je dis qu'André Gortz fit de tardifs adieux parce qu'il a écrit son bouquin « Adieu au prolétariat » bien après. Mais, en fait, le MSR a implosé sur un coup de force, n'est-ce pas, Alda ? Voilà. Une fraction menée par le frère ennemi Antoine, c'est pour ça que je devais parler de lui, n'est-ce pas ? Candidat admis par décence, en fait, eh bien, secondé par un séide vociférant, vive Wyszynski, si Alda se rappelle, c'était son copain d'alors. Son copain d'alors, oui. Nous éjecta fin 69 ou début 70 par une voix de majorité. C'est pas beaucoup parce que c'est 8 contre 7. Hein, bon. Eh bien, il éjecta votre serviteur et ceux qui restaient des fondateurs. Cet événement, pour le moins capital, eut lieu à l'occasion d'une obscure controverse que j'arrive pas à me rappeler. Mais enfin, je me souviens que les excommuniés refusaient de jouer aux hommes, donc nous, on refusait de jouer aux omniscients tacticiens léninistes et donner des leçons à ceux que nous exhortions à nous suivre dans l'action. Nos contradicteurs furent d'ailleurs prompts, non sans avoir confisqué notre matériel, à rallier, incorporer le CLP en formation et n'ont pas tardé à y exercer leur appétit de maîtrise. Je crois qu'on a des témoins ici. C'en était fini pour moi de mon engagement militant d'alors. Qui avais-je appris ? Ben, d'abord à reconnaître les vrais amis et à me méfier des capacités de nuisance dans les groupes, si minuscules soient-ils, des détenteurs de vérité, amateurs de pouvoir par rapport à qui n'avait guère plus à partager que des doutes. Je ne suis pas sorti aigri le moins du monde, je crois que les gens qui me connaissent le savent, de ma mésaventure groupusculaire. Et puis je suis loin de partager la vision, par exemple, que je viens d'entendre Jean Ziegler au Salon du Livre, hausser les épaules par rapport à ces mini-révolutions parisiennes où on brûle quelques voitures par rapport à 68, alors que lui, il était en plein dans les combats syndicaux de paysans et des guérillas. Bon, pour moi, l'ébullition de 68 a fait craquer, on l'a dit beaucoup ce soir, ici un peu partout, des valeurs patriarcales, impulser l'essor du féminisme, fissurer l'autorité professorale, y compris les professeurs de révolution, et dans un même mouvement, à libérer dans les ateliers, surtout en France, mais ici aussi, une parole ouvrière, tu en as témoigné, Christian, souvent étouffée par la maîtrise et contenue par les partis et syndicats régnants. Il n'y a même pas à regretter, donc, de nous avoir fait perdre quelques illusions. Évidemment, mais plus de 30 années passées ensuite chez IBM Suisse n'ont guère été riches en combats syndicaux. Et mon caractère rebelle n'a pas poussé beaucoup plus loin qu'un certain refus d'assumer des responsabilités d'encadrement à quelques postures vestimentaires et comportementales peu orthodoxes, à résister au saucissonnage des vacances et à avoir toujours des relations très cordiales avec des catégories de personnel moins favorisées que les ingénieurs dont je faisais partie. J'ai beaucoup appris, notamment que les dirigeants d'entreprise ne sont pas des mécaniques huilées au service du capital, présentent des types humains assez variés, dont certains plutôt rarissimes, admirables. J'ai pu comparer dans le domaine de la gestion des personnels et des stratégies de pouvoir, le privé et le public, du fait de mon passage dans l'enseignement secondaire et universitaire. Le moins qu'on puisse dire est que le public, contrairement aux idées reçues, ne s'en tire pas toujours à son avantage. Pendant cette période, j'ai en privé continué mes lectures dans le registre social philosophique, bâti de très solides amitiés, je n'ai pas le temps de les mentionner, elles le mériteraient, en dehors du cercle professionnel, dans les milieux de la gauche, du développement, de l'art contemporain, à l'ombre de Marie-André, de la multiculturalité antillaise, polynésienne et asiatique. Le souvenir de mai 68 a continué pour moi d'inspirer le côté festif et privé de mes 31 années de professionnel informatique, pendant lesquelles je n'ai commis comme tract que des adresses aux anniversaires, mariages et décès de mon entourage amical et familial. Nous voilà bientôt arrivés, on arrive à la fin quand même, les échanges de mails en 2005 avec des amis au sujet du projet de constitution européenne, les débuts littéraires de Marie-André, un premier essai d'article témoignant de ma passion pour l'œuvre de l'immense écrivain-penseur qu'est Édouard Glissant, m'amenèrent au désir de vouer une partie de mon temps, le temps qui reste, à partager d'ambitieuses ruminations, autant dans le domaine de la relation à l'autre. C'est là, il faut tourner la page. Ouais. Et des racines du racisme que dans celui qui m'est assez familier, je dois dire, des raisons théoriques aux dérives du marxisme. Voilà qu'une interview de Christian Grobet sur les bilatérales, dans la Tribune de Genève, confite de démagogie antifrontalière, m'a fait sortir de mes gonds, me ruer sur Internet pour voir qui disait quoi sur le sujet dans cette extrême gauche à Genève, édifié. Eh bien, je m'inscrivis de rechef et bientôt à Solidarité. Je pris part à la campagne référendaire sur la libre circulation. Je m'engageai à la coordination contre l'exclusion et la xénophobie. Je rompis des lances avec Alain Gontier du MPS sur le sujet. Et depuis, je m'escrime éditorialement sur ce qui me tient à cœur. Je milite pour insuffler une culture de débats ouverts à la gauche de l'échiquier genevois. Je participe en dilettante à quantité de débats, banquets et autres festivals et contribue modestement à la mise sur pied de l'Observatoire du droit d'asile et des étrangers. Comprenne qui pourra, mais je trouve que survit en moi à la fois la conviction qu'il faut changer le monde tel qu'il est et la méfiance quant aux stratégies de contrôle ou de maîtrise qui animent les agitateurs et patriote d'organisation de tout poil. L'esprit de mai doit mille fois plus à l'œuvre des Castoriadis, Lefort, Marcuse, Morin, voire Bourdieu, à l'impertinence des Guy Debord et des Simon Lès, qu'à n'en déplaise et sans dénier le rapport, tous les Mandels réunis, dont les sectateurs psalmodient aujourd'hui sans broncher, ni même se trouver comiques, en gardiens du temple. Recalé une fois, décalé apparemment toujours. Voilà.
Très bien structuré, mais je crois qu'effectivement, et c'est sans doute pas par hasard, c'est du reste une chose qui est ressortie très fortement au moment de la naissance du MLF à Genève, c'était de dire, en fait, mai 68, on était présente, on était là, mais c'était... On n'avait pas vraiment l'impression que c'était notre lutte. On n'avait pas l'impression... Par ailleurs, on n'y était pas vraiment complètement à l'aise. Moi, j'ai vécu exactement la même chose que toi. En plus, totalement à l'ombre de Léo, qui était quand même une figure importante du mouvement. Et je crois que le mouvement des femmes...
On a toujours dit Léo et Massia.
Oui, jamais Massia et Léo. Mais à la limite,
elle
c'était...
Elle aime. Elle aime.
Et donc, je pense que c'est vrai que le MLF a permis un autre type de réflexion, un autre... nous a vraiment permis de nous affirmer d'une certaine manière et de réfléchir en termes totalement différents la société, ce qu'on voulait faire de notre vie, la remise en question du couple, de la famille, assez fortement dans les discussions, et pas seulement dans les discussions, mais dans les réalisations. Puis ensuite, il y a eu toute la vie en commune, dont on a un peu évoqué. Mais j'ai trouvé aussi intéressant, et en même temps tout à fait normal et logique, d'entendre les hommes parler de 68, des groupuscules, de la vie politique, etc. Et des citations de grands intellectuels. Et puis d'entendre Alda et d'entendre Marguerite parler, nous on voulait changer, on avait envie de faire autre chose, ça s'est fortement retrouvé à ce moment-là, dans les années 70.
Un petit bémol, c'est-à-dire que je comprends très bien d'abord, évidemment, ce qu'a dit Massia, mais si je ne m'abuse, je ne me rappelle pas tous les exposés, j'étais probablement le seul à effectivement aligner des grands noms, que tu dis, des noms d'intellectuels. Mais moi, je comptais montrer que moi, ça s'est arrêté en 68. Donc, ce que tu as dit et ce mouvement qui participe évidemment de la révolte ou de la révolution anti-autoritaire, de ce qu'a dit Léo. C'est arrivé un peu après, pour moi, c'était fini. Moi, je n'ai pas été dans cette... effectivement, c'est une rupture générationnelle, c'est pas une rupture de...
Mais t'aurais aimé être dedans
C'était plus moi, je bossais à ce moment-là, j'avais choisi ça. Vrai. Donc il y a un décalage ici qui n'est pas...
Mais c'est pas tout à fait vrai, oui. Cet esprit anti-autoritaire, il était effectivement contre la famille, contre l'autorité, mais il était aussi au niveau politique, tout à l'année 68. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'est passé en Allemagne, qu'il s'est passé en Pologne, qu'il s'est passé en Suisse, qu'il s'est passé en Belgique. Et évidemment à Paris, il y avait un fort esprit anti-autoritaire. D'ailleurs, à Paris, les étudiants, effectivement, ils sont révoltés par rapport à ça, par rapport à l'académie, par rapport à l'époque, mais les jeunes ouvriers, qui ont ensuite ont été pris par cette, dans les usines, je veux dire, c'est
bien sûr.
Quelque chose que je ne sais pas seulement au niveau de la vie quotidienne, je sais pas ce que je voulais dire.
Quant aux institutions,
le MLF, c'est venu après, donc les communes à Genève, etc., moi, c'était après.
Oui, oui, non,
non, c'était plutôt une différence, c'est pas une critique, c'est simplement un mouvement historique qui a eu des phases. Voilà, moi, je n'étais plus dans cette mouvance-là, c'est tout.
Et si on veut prendre mai 68, et ouais, quelque part raison sur la question de l'anti-autoritarisme, parce que c'est vrai que c'était la première révolution, et toutes les révolutions ont eu part, toutes les révolutions, c'était pas d'anti-autoritarisme, d'anti-autoritaire. Mais c'est la première qui a eu lieu, en fait, avec une telle ampleur, d'une manière très délicate. Et j'avais toutes ces caractéristiques en Allemagne, en Italie, dans l'usine, etc. C'était très fort en Italie. Ça a donné d'ailleurs lieu à des groupes politiques extrêmement forts contre le PCI, etc., qui lui restait dans le style d'autorité de l'époque. Et puis, on remarque historiquement tous les mouvements de gauche qui sont restés sur la ligne autoritaire, c'est-à-dire cette sorte de les partis se dirigent, et puis les dirigeants sont les partis sont des représentations qui dirigent leur représentation, en fait les travailleurs ou les choses comme ça, etc. Tout ça est en train de s'écrouler. Alors peut-être, toi tu dis, il a fallu les 30 ans où tu as vécu en fait ta vie d'ingénieur, les trucs comme ça. Et puis c'est vrai qu'il y a eu pendant une longue période, après mai 68, de recul, littéralement de ce truc-là, où la jeunesse, où les jeunes, j'ai eu moi-même des enfants, etc., tu vois, étaient clairement, en fait, ils disaient, moi je veux devenir bien vivre. Je veux vivre les top modèles, des trucs comme ça, en fait, je veux vivre ce genre d'expérience, ce genre de vie. Mais maintenant, en fait, revient un truc très anti-autoritaire au sens où les gens refusent, effectivement, l'autorité des partis traditionnels tels qu'ils existent, ou alors, on voit très bien de plus en plus de gens. Par exemple, l'abstentionnisme, etc., de plus en plus de gens voient qu'ils sont en fait manipulés par ce type d'autorité. Puis moi, je crois que c'est un héritage assez important qui n'est pas immédiat, qui se voit avec des reculs, des avancées, etc. Mais mai 68, c'était très certainement un des éléments en fait qui a tracé un nouveau rapport des gens, je veux dire, plus démocratique, plus. Pas d'une manière finie, c'était pas du tout fini, mais c'était très embryonnaire.
Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui aimeraient s'exprimer, notamment ceux qui n'ont pas parlé? Est-ce que vous aimeriez vous exprimer dans une autre séance, ou... Vous pouvez dire un peu ce que vous avez. On commence un peu le débat ou bien. Les gens sont fatigués.
Moi je dis franchement, s'il y a une autre séance, alors il faut doubler avec essayer de voir des enfants, qu'est-ce que pensent les enfants de la génération mai 68 dans la même séance. Je trouve qu'il faudrait, parce que c'est pas intéressant. Si tu trouves des enfants.
Bernadette, vous voulez dire quelque chose encore?
C'est-à-dire, comme je suis un petit peu, j'ai l'impression d'être un peu outsider, parce que je suis la seule qui ait vécu à Paris à ce moment-là, et qui ait vécu cette lutte sur les barricades à Paris. Et je voulais savoir un peu le lien, comment ça s'est passé à Genève. Est-ce que Paris a été le modèle pour Genève, ou pour la Suisse en général?
Non.
Comment, est-ce que je veux dire, est-ce que cette révolution a été exportée, ou c'est rien à voir avec ce qui s'est passé à Paris?
Ouais.
Je voudrais l'entendre plus, quoi. Je peux dire une petite anecdote. Mais dans ces assemblées générales à l'université, il y avait toujours, c'était surtout toujours des mecs, qui se levaient, ils disaient « Je rentre de Paris oh, !» oh. Et puis ils racontaient des trucs, hein. C'était incroyable, il y en avait toujours un, comme ça, et puis on était la langue pendue, on mourait tous d'envie d'aller à Paris. Et puis...
Et moi, j'ai dit, dans l'usine où j'étais, il y avait des travailleurs qui venaient, qui avaient la grève générale, hein, qui venaient, qui nous disaient « Qu'est-ce que pensez la révolution maintenant ?» Qu'est-ce qu'on fait ? Sincèrement, ils étaient là, ils étaient vraiment en prise avec l'autorité qui disait ça c'est l'aventurisme, c'est les étudiants, c'est des trucs comme ça. Non, on l'a vécu comme ça. Mais on l'a aussi beaucoup vécu parce qu'il y avait eu tout ce mouvement anti-guerre, anti-Vietnam, anti-etc. qui commençait à se prendre des forces en Allemagne, particulièrement avec Dutschke, etc. Tu vois, c'est très fort là. Avant peut-être ce qui s'est passé en Italie. En Italie, ça a été plutôt le moment fort de Potere Operaia, d'avant Operaia dans les usines, a été s'est passé après 68.
Moi, je trouve pas. Dario,
elle n'a pas parlé.
Je voulais juste pas tellement parler de moi en 68 parce que en fait j'ai pas eu la même attitude que Mathias ni que Alda parce que je me refusais d'être dans l'ombre. Alors j'étais à côté et je faisais autre chose, je recevais effectivement, c'était chez moi qu'il y avait eu pas mal de réunions, étant donné qu'on avait plus ou moins hérité d'un appartement, enfin. On logeait dans l'appartement des parents de Dario, qui est, donc c'était grand, même si on louait des chambres pour avoir des sous, mais on pouvait recevoir pas mal de monde. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a un autre aspect de 68 qui est au-delà de cette excitation, c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour ma mère, qui était à Paris, enfin qui était dans la banlieue parisienne, et qui n'avait plus un sou. Elle ne pouvait pas retirer d'argent et elle n'avait plus de liquidité, toutes les banques étaient fermées. Tout. Et alors elle nous téléphonait vraiment en désespoir, elle n'avait pas de quoi s'acheter à manger. Et alors on a cherché par tous les moyens comment faire pour lui faire parvenir de l'argent. Et j'ai fait 3 ou 4 fleuristes pour demander si je pouvais envoyer par Interflora de l'argent. Et on m'a toujours refusé. Et on m'a refusé ça. Et finalement, on est parti en voiture un week-end à Paris pour lui amener des sous parce qu'elle n'avait vraiment pas de quoi vivre. Et arrivé à Paris, c'était fou parce qu'il y avait en fait peu de monde, parce qu'il n'y avait pas d'essence non plus, déjà c'est un problème pour circuler, pour aller de Paris à la banlieue, c'était déjà, on avait déjà plus d'essence et on ne savait plus, et il y avait plein de monde qui faisait de l'autostop, tu vois, et on a pris des jeunes, il y avait des ordures, il y avait des ordures partout, c'était quand même pas si idyllique que ça, hein. C'était l'excitation et le sentiment qu'il se passait quelque chose d'une part, mais dans la vie de tous les jours, pour les gens qui habitaient, c'était pas évident, et il y a ce côté-là aussi qu'il ne faut pas négliger.
Un des trucs qui a fait plus plaisir, c'est de passer devant la banlieue, devant l'Hispano-Suiza,
en grève, occupé. Occupé par son patron.
Véronique, tu veux dire quelque chose?
Non.
Jean-Laurent?
J'étais aussi en 68 à Paris.
Ah ben voilà, au moins un.
Au moins un, en plus. J'habitais Genève, mais mon père habitait à Paris. J'étais allé à Paris. Et j'avais donc assisté au début des événements de mai 68 par ce qui il y avait les manifestations en sympathie des étudiants allemands. Donc je me souviens très bien, au boulevard Saint-Michel, il y avait plein d'affiches qui informaient de ce que les étudiants allemands, disons, manifestaient. Et je pense que ça a été, disons, par la suite, l'un des mouvements qui a débouché sur les événements de mai 68. Moi, je suis resté donc en mai à Paris. Je suis revenu plus tard à Genève. Et après, j'ai été incorporé à l'armée. J'ai fait mon service militaire à l'armée à Paris. Et je me suis trouvé en septembre sous les drapeaux, en fait. Et j'allais aux manifs en uniforme. Alors, c'était très bien parce que les étudiants étaient assez cléments devant moi et les CRS me tapaient pas non plus parce que on était vraiment entre les deux. Il y avait encore des manifs en septembre, il y en avait moins, mais disons qu'il y en avait. Alors, quand je vous écoute tous, je vois quand même qu'il y avait déjà des choses qui étaient très structurées au niveau politique, association, enfin mouvement et tout ça. 68, j'avais 18 ans, c'était tout à fait autre chose pour moi. C'était quelque chose qui était complètement du niveau élan, poétique, je dirais à la limite. Allez, c'était la révolution. Je ne savais pas très bien, on criait Che Guevara, mais on ne savait pas, j'avais pas énormément d'idées sur ce qu'il avait fait ou autre chose comme ça. Je n'étais pas vraiment politisé, tout en ayant quand même une espèce de cœur à gauche, quand même, disons. Mais ça m'a laissé une très très forte impression, ces événements de mai 68, sans qu'il y ait eu derrière, disons, toute cette politisation dont j'ai entendu ici. Ça veut dire que je me souviens, disons, de détails. Je me souviens de la place de la Sorbonne où il y avait un piano.